autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, à l'affût aujourd'hui, pour partager une aventure extraordinaire sur grand écran et avec tous nos sens en éveil sur les traces de l'insaisissable panthère des neiges, pisté sur les hauts plateaux tibétains par le photographe animalier Vincent Munier, notre invité, qui a entraîné dans sa traque himalayenne l'écrivain voyageur Sylvain Tesson, un cinéma du réel, grandeur nature, sublimement filmé par Marie Amiguet, en direct avec nous également, réalisatrice de ce film documentaire à nul autre pareil, qui sort mercredi sur les écrans français. Une expérience sensible à partager en avant-première sur nos ondes, autour de la question « Pourquoi et comment ?» Pister la panthère des neiges. Bienvenue à l'affût auprès des yaks sauvages et des antilopes du Tibet. Nous croiserons même de très près un ours et qui sait, peut-être apercevrons-nous dans ce sublime paysage glacé la reine du camouflage, la mythique panthère des neiges, dans l'objectif de Vincent Munier et sous la plume de Sylvain Tesson.
Je l'avais rencontré un jour de Pâques après une projection de son film sur le loup d'Abyssinie. Et notre amitié était née de mon admiration pour l'artiste. Il m'avait raconté sa vie de photographe animalier et détaillé les techniques de l'affût. C'était un art fragile et raffiné, consistant à se camoufler pour attendre une bête dont rien ne garantissait la venue. Il m'avait invité à l'accompagner au Tibet à la poursuite d'un être que je croyais disparu, la panthère des neiges. Pour moi, un rêve. Pour lui, un rendez-vous.
Un rendez-vous avec la panthère des neiges. Bonjour Vincent Munier.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Pour partager cette formidable aventure sur les traces de la panthère des neiges, des yaks sauvages, des antilopes ou du loup de Mongolie, car l'excellent photographe animalier que vous êtes a choisi de consacrer sa vie à pister les animaux sauvages, à les suivre, à les flairer, à les écouter, bien sûr, à les capter dans votre objectif. Sauf que pour ça, il faut, si j'ose dire, ne pas avoir froid aux yeux, faire preuve de patience et de persévérance pour se faire oublier, pour se fondre dans le paysage, un peu comme tous ces animaux sauvages que vous pistez avec tous vos sens, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Vincent Munier, vous devez être absolument présent avec tous vos traîtres et en même temps vous fondre et ne faire plus qu'un avec la nature qui vous entoure. C'est un peu ça de pister?
Ben oui, c'est vraiment ça, essayer. Alors moi j'ai commencé très tôt, hein. J'ai quand même eu cette chance de grandir avec une forêt à côté de la maison, d'avoir eu des parents qui nous emmenaient toujours dans cette forêt ou à faire du canoë dans les Vosges. Et donc, oui, c'est devenu un peu naturel d'essayer d'observer tous ces animaux que finalement on occulte un petit peu, hein, mais tous les animaux autour de chez moi. Donc j'ai commencé par ça, des affûts aux chevreuils, des affûts pour tous les oiseaux, puis tout s'est fait crescendo, des renards, les blaireaux, donc ensuite les grands cervidés. Et chaque période de l'année était des rendez-vous avec ces bêtes sauvages qui me fascinent. Et cependant, je ne pensais pas en faire un métier. Puis petit à petit, maintenant, je vis de cette, entre guillemets, même si ça reste toujours une passion, évidemment, de cette quête permanente d'essayer de saisir la beauté de ces êtres qu'on néglige.
La beauté, c'est ça qui vous intéresse. Vous mettre à l'écoute et de prêter vos yeux, votre regard, pour nous, à ces animaux sauvages et cette nature qui nous entoure et qu'on ne voit plus alors que nous regardons.
Oui, c'est vraiment ça. C'est ça qui nous rend un peu tristes, nous, les naturalistes, où on essaye de protéger cette nature pour essayer de faire comprendre à tous nos contemporains que ça fait du bien. Ça fait du bien de ralentir, d'observer, de les regarder, de les pister. Et moi, Je suis vraiment ravi parce qu'on a vu lors de ces avant-premières que les enfants
de notre film La Panthère des Neiges étaient
intéressés, et tant mieux, parce que je pense qu'il y a vraiment besoin de faire en sorte que ces enfants aillent vivre un peu des affûts autour de chez eux et tentent d'aller plus en contact avec le sauvage, avec cette nature sauvage.
C'est un moment magnifique en tout cas que de vous suivre autour de cette Panthère des Neiges, même à la radio, même sans les images. Vous allez voir, chers amis auditeurs, on se laisse prendre par la magie des oreilles autour de la question « Pourquoi et comment pister la Panthère des Neiges ?» Bonjour Maria Miguet.
Mais bonjour.
Merci d'être en direct avec nous autour de ce film, donc « La Panthère des Neiges » que vous avez réalisé et qui sort demain, mercredi, sur les écrans français. C'est une vraie merveille, ça c'est peu de le dire, mais c'est aussi une sorte d'exploit et d'ovni cinématographique. Marie, vous avez suivi, sans vous faire voir, hein, le photographe donc Vincent Munier et l'écrivain voyageur Sylvain Tesson dans leur traque, dans leur quête sur les hauts plateaux himalayens. Vous étiez, moi j'ai envie de dire, doublement à l'affût. C'est-à-dire à l'affût de leurs regards et de leurs gestes à eux, les humains. Et puis évidemment des animaux qu'ils pistaient. Hein, mais il ne fallait pas vous faire voir non plus.
Bah évidemment, parce que si je me faisais voir, je faisais capoter leurs affûts, qui étaient finalement les nôtres. Et puis c'est vrai que ce film, c'est avant que nous-mêmes nous arrivions sur le projet, Sylvain et moi, il y avait déjà 5 ans de travail derrière. Il y avait déjà 5 voyages que Vincent avait fait, où il avait filmé. C'est pas seulement photographier, c'est filmer toute cette faune. Et c'est de ça, de cette matière-là qu'est née cette envie pour Vincent de faire un film et de raconter, de partager ce qu'ils vivaient là-bas. Moi, je n'ai fait que les filmer eux et essayer ensuite d'orchestrer au montage, avec bien sûr l'œil bienveillant de Vincent, d'orchestrer au montage cette magie qu'on peut ressentir dans ces voyages-là, à aller au contact des animaux, être dans des immensités sauvages et être en plus avec deux personnages fort, fort passionnantes.
On va y revenir sur ces deux personnages passionnants. Vous la poursuiviez, vous la traquiez, vous la photographiez, vous la filmiez depuis 6 ans, la Panthère des Neiges.
Premier voyage, c'était en 2011, plus pour le yak sauvage. C'est vraiment cette espèce qui m'a donné envie d'aller découvrir ces hauts plateaux tibétains.
Et extraordinaire, hein, ce yak sauvage. C'est un animal quoi, préhistorique, on ne sait pas.
Ben c'est ça, il est contemporain du mammouth, ouais, du rhinocéros laineux. Et en effet, de voir cette grosse bête, moi je ne le croyais pas présent là-bas. Hein. Et il est, il a traversé des millénaires. Il est là depuis, c'est l'animal minéral roche qui brave toutes les années, évidemment. Et puis aussi toutes les conditions très sévères du Tibet. Ça, c'est lui qui m'a donné envie d'y aller. Et puis, tout s'est fait petit à petit. J'entendais parler de panthères. J'avais beaucoup lu, évidemment, Georges Schaller, un biologiste américain, qui a fait un inventaire faunistique là-bas. Mais j'y croyais pas vraiment.
Qu'elle existe encore ou que vous puissiez l'apercevoir.
Non, que je puisse la voir. Parce qu'on la savait extrêmement fantomatique. Et c'est l'animal qui nous voit et on ne la voit jamais.
C'est incroyable. Hein. D'ailleurs, je me suis laissé dire, Marie, que vous aviez... Il y a quelques images de panthères dans le film que moi, j'ai pas vues. Enfin, il faut vraiment que vous nous la montriez du doigt pour qu'on la voit, même quand ou si vous arrivez à la voir.
Ben oui, et puis il y a même cette anecdote où j'ai photographié une fois un faucon, un faucon cresserelle, qui est un oiseau tout à fait banal. Je photographie ce faucon dans une roche, et c'est seulement 2-3 mois après, sur l'ordinateur, en regardant cette photo de faucon, que je zoome et je vois les yeux d'une panthère qui m'observe. Donc c'était un bon pied de nez, c'est-à-dire que le soi-disant bon photographe expert se fait avoir, et c'est ça sans arrêt. Et c'est génial, c'est le genre de défi d'essayer de la déceler avant l'inverse, avant qu'elle nous voie.
Il se fait avoir sans arrêt et en même temps. Alors, vous êtes assez fascinants, je dois le dire, mais tous les deux, tous les trois, tous les quatre d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier non plus Léopold Jacquot, hein, le quatrième larron de cette aventure.
Qui est venu avec nous, à la caméra. Ouais, il a fait 3 voyages à mes côtés, Léopold Jacquot, absolument.
Et vous êtes tous donc dans des conditions quand même particulièrement difficiles. Il fait très froid, il y a de la neige, vous ne bougez pas parfois pendant des heures et des heures, et vous avez l'air extrêmement heureux, et en fait on vous envie presque.
Oui, c'est presque anecdotique, tellement
le froid,
oui,
l'attente.
Alors peut-être un peu moins pour Sylvain, on le voit quand il a pas tout à fait la même patience. Marie avait aussi les doigts qui gelaient, enfin c'était pas évident, mais c'est vrai, quand on est possédé par un animal, on oublie vite cette petite souffrance et on est récompensé par souvent cette vision magique. Mais c'est certain, comme le disait Marie, on est quand même sur un documentaire un peu OVNI entre guillemets, parce qu'on est parti au départ, on savait pas si, on ne pensait pas que ça allait être un film au cinéma. Tout s'est fait vraiment de rencontre en rencontre et on est parti de manière artisanale. On voulait, comme je le fais tout le temps, minimiser notre impact et ne pas déranger les animaux là-bas. Éviter tout ce qui était drone, tout ce qui était grosse industrie du cinéma.
Merci, donc on était... pas de drone.
Il y a zéro drone et ça,
film,
on en est content. Et donc, il fallait... on filmait... vous avez vu, c'est un film... c'est fait par un photographe, tout ce qui est animalier. Donc, je suis... c'est que des plans photographiques. Il n'y a aucun travelling ou quoi que ce soit. Donc, c'est assez, assez particulier. On est dans un film très minimaliste, finalement.
Méditatif et qui embarque.
Oui, en tout cas, on a essayé d'emmener les gens avec nous, à, côté, à nos côtés, dans les temps un peu longs, un peu, et être à l'affût.
Et bien justement, à l'affût, autour de la question pourquoi et comment pister la Panthère des Neiges, comment se met-on à l'affût? Alors je vous l'ai dit, même sans image, à la radio, on peut le découvrir avec cet extrait chuchoté, pour être le plus discret possible, qu'on ne vous entende pas, hein, entre vous, Vincent Munier, et l'écrivain voyageur Sylvain Tesson.
On va s'arrêter là, tu verras, on a
vraiment une jolie vue.
On a pensé en rampant.
Ouais, j'ai posé mon sac. Puis on a pensé en rampant, on va regarder.
Ah, le soleil est chauve.
On a l'impression qu'il n'y a rien, c'est un silence, mais non, finalement, t'as plein de petites choses qui... T'as des espoirs qui arrivent ou pas, tu peux... Bon, la panthère, c'est toujours le Graal, mais il y a plein d'autres espèces. Il faut absolument qu'on trouve un endroit où dormir, ici, pour vivre tout ça. Il n'y a pas à perdre du temps dans l'ascension, il faut vraiment qu'on soit sur place, qu'on ait là, le crépuscule, qu'on ait l'aube. Ah, mais là, je pourrais rester des heures, des heures, des heures.
Comment trouve-t-on l'endroit idéal, Vincent Munier, pour pister, pour traquer, pour se mettre à l'affût? Alors, l'endroit idéal, je rappelle, il fait quoi? Je ne sais pas combien, il fait moins quelque chose, il neige, il pleut. Vous allez trouver un peu plus tard une grotte, un abri dans lequel vous allez humer, sentir des traces d'ours, hein, parce que vous les humez. Comment est-ce qu'on trouve l'endroit idéal?
C'est rigolo parce que là, cette séquence, on l'appelait dans notre petit jargon l'affût idéal.
L'affût idéal.
Parce qu'il y avait vraiment cette configuration du relief qui faisait qu'on était bien caché, qu'on avait une vision très lointaine, que s'il y avait un paysage qui était favorable à la panthère parce que c'était comment dire, il y avait des petites prairies, il y avait des proies évidemment, des barres rocheuses pour elle se cacher, parce que on est d'accord que la panthère, elle a besoin, à l'inverse du loup, hein, elle a besoin d'être au plus près de sa proie et d'être le plus caché possible pour pouvoir la prédater. Donc voilà, c'est un peu ça l'affût idéal, mais si vous avez raison, le secret c'est vraiment le temps, c'est rester longtemps, avoir une lecture du paysage. On a des outils un peu nouveaux quand même qui nous aident. Google Earth, ça m'a beaucoup aidé pour découvrir des vallées là-bas. Au Tibet, je regardais un petit peu comment se passaient ces vallées, comment c'était articulé. Et en fonction des angles de lumière, évidemment, en fonction du coucher de soleil, lever de soleil, le vent. Il y a plein de paramètres et tout se fait avec souvent un peu à l'instinct. Mais c'est ça qui est fabuleux, c'est vraiment un jeu, en effet, un jeu de piste, c'est redevenir un petit peu les gamins qu'on était tout le temps sur le terrain, redevenir aussi un peu animal.
Oui, c'est redevenir ce qu'on est autour de la question pourquoi et comment pister la Panthère des Neiges pendant des heures sous la neige. Tout de suite, une nouvelle question soulevée par un autre chercheur, explorateur un peu extrême, Christian Clos, qui était récemment notre invité. On l'écoute.
Bonjour Vincent, bonjour Marie. Une question que je me pose souvent, parce que je ne fais pas ça moi, mais quand on passe parfois des semaines, des mois à la traque d'un animal, heureusement dans votre cas, pas pour lui tirer dessus, mais pour le prendre en photo.
Petit souci de son. En fait, il voulait vous poser une question, Christian Clos. Est-ce qu'à un moment donné, Marie, Vincent, vous vous prenez ou vous vous sentez comme un animal?
Alors ça, c'est vraiment une question pour Vincent, mais moi, je le ressens Pas tout à fait comme ça. Disons que si au bout de 3 semaines, à pas m'être lavée et à manger les restes qui sont dans nos sacs et à dormir dehors, je finis par me sentir comme un animal. Mais Vincent, qui lui est à l'affût des animaux et qui aiguise tous ses sens pour pouvoir peut-être espérer les voir, il est fascinant. C'est fascinant de le voir œuvrer. Hein. Il ne lâche rien, jamais, même quand la lumière commence à tomber, que nous n'en peut plus. On a déjà fait 12 heures d'affût. Il ne lâche pas. Et c'est ça qui fait qu'il est si doué, en fait, pour voir des choses. C'est qu'il sait qu'il peut y avoir toujours un indice dans le paysage.
Comment vous faites et comment vous ressentez dans ces cas-là? Vous êtes vous-même le même que Vincent Munier que j'ai en face de moi dans ce studio, ou quelque part vous
non,
êtes...
Non, pas du tout. Mais pour revenir, Marie, elle a un petit côté quand même un peu animal. Hein. C'est pour ça que je l'ai proposé de venir.
Bien pour ça que
elle a un côté un peu louve, et puis le secret du film, c'est qu'elle a réussi vraiment à se fondre et à être très flexible dans les rochers sans nous gêner, évidemment, et sans nous faire rejouer quoi que ce soit.
C'est quand même une louve, démarche. Hein. Donc Marie, c'est la louve.
Oui, une louve, une panthère.
Mais vous y connaissez, puisque vous avez suivi
le loup arctique,
exactement.
Absolument. Mais oui, c'est vrai que j'aime le dire. En tout cas, je m'inspire énormément de leur technique. La panthère, c'est ça, c'est vraiment se fondre dans le milieu. Elle est comme un fluide. Et c'est fascinant. Et donc, en même temps, moi, je m'agace. Je suis un peu dur avec moi-même parce que je me sens un peu réduit par rapport à tous les animaux que j'observe dans ces milieux incroyables. Et j'ai pas leur élégance, leur aisance dans ces milieux-là. Ouais, donc
vous en avez beaucoup plus.
Alors,
que
un peu
nous,
plus
cher
que,
Vincent.
Un peu plus que peut-être la
moyenne. Mais oui, parce que quand on regarde ce film, c'est insensé. Vous êtes effectivement à l'affût. Je ne sais pas si vous avez plus de sens ou vous les avez plus développés que nous. Mais on voit bien que vous avez les yeux grands ouverts, les oreilles grands ouverts. Vous ressentez, vous reniflez, vous touchez et vous voyez des choses que... Peut-être la louve Marie et les voix, mais moi non. Hein.
Oui, non, mais c'est... Après, je ne sais pas trop comment expliquer ça. C'est probablement mon histoire aussi. C'est quand même à 12 ans, mon père qui met à l'affût. J'ai une vision extraordinaire avec un animal sauvage toute proche, et je fais une photo pour figer cet instant, et après ça m'a plus jamais quitté.
C'est un chevreuil
en l'occurrence, quelque chose de classique, d'ordinaire, et qui provoque autant presque d'émotions que parfois que des espèces exotiques, ça on le dit bien. Mais c'est sûr que ça a été un choix de vie, parce que c'était même un peu difficile pour mon entourage, mais ma vie est un peu régentée en fonction des saisons, en fonction des affûts à faire, en fonction une belle lumière. Je suis pas bien, je suis mal à l'aise. Là, je sais qu'en ce moment, il y a de la neige et il y a du beau soleil, des contre-jours incroyables dans mes Vosges.
Vous avez envie d'y être ?
Donc j'enrage, même si le moment est agréable dans votre compagnie. Mais c'est un peu obsessionnel, évidemment.
Et si vous étiez un animal, vous seriez lequel, Vincent ? Parce que j'ai bien entendu la louve, hein, pour Marine et vous.
Oui, alors là, bonne question, mais je pense que c'est difficile. Je serais probablement un oiseau, parce que c'est vrai que c'est quand même assez fascinant, un oiseau migrateur, et tant qu'à faire, allons chercher celui qui fait le plus de kilomètres, la sterne arctique, qui passe d'un pôle à l'autre.
Passe d'un pôle à l'autre.
Antarctique, Arctique, c'est fabuleux quand même. Adore ces endroits un peu extrêmes.
Donc Vincent, la sterne arctique Munier, en compagnie de Marie Lalouve Amiguet, autour de la question pourquoi et comment pister la panthère des neiges, sans même savoir si on va la voir un jour. Suspense, suspense. On continue de s'interroger sur le plaisir, tiens donc, à couper le souffle à l'écoute d'un extrait de La Panthère des Neiges, votre film, Marie Amiguet, et du récit qu'en fait in situ et dans son récit, dans son ouvrage, Sylvain Tesson.
Panthère. Le nom teintait comme une parure. Rien ne promettait d'en rencontrer une. L'affût est un pari. On part vers les bêtes, on risque l'échec. Certaines personnes ne s'en formalisent pas et trouvent plaisir dans l'attente. Hélas, je n'étais pas de ce genre. Moi, je voulais voir la bête, même si, par correction, je n'avouais pas mes impatiences à Munier.
Как люблю я вас, как боюсь я вас. Я ее в нидре еще. Не, 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 не. Хоть
J'ai beaucoup circulé, j'ai été regardé et je n'en savais rien. C'était mon nouveau psaume. Et je le marmonnais à la mode tibétaine en bourdonnant. Il résumait ma vie. Désormais, je saurais que nous déambulions parmi des yeux ouverts dans des visages invisibles.
Ça, c'est une des merveilleuses découvertes, on veut dire presque leçon du film. Vous pistez les bêtes sauvages, mais les bêtes sauvages, les petites, les grandes, les moyennes, vous regardent. Et on est, vous êtes, constamment sous le regard des autres vivants, observé par les autres animaux. Et véritablement, c'est quelque chose qui reste, hein, après la vision de ce film. J'aime bien aller me promener en forêt. Peut-être que je le ferai un peu plus attentivement que d'habitude.
Ah ben ça, ce serait chouette. Hein. Ce serait chouette qu'on soit attentif, même une balade à forêt ou dans nos campagnes, là, qu'on soit un peu plus attentif. Une paire de jumelles, c'est génial aussi. Mais oui, ben c'est certain que là-haut, la montagne a des yeux. C'est en permanence qu'on se sent observé et c'est pour ça que des fois un peu j'ai vraiment j'enrage et puis j'use la technique des animaux pour essayer d'être à leur place et l'affût est la bonne technique, c'est-à-dire se cacher et attendre, observer. Là au Tibet, c'est vraiment trouver un point haut, comme on en parlait tout à l'heure, l'affût idéal. Et puis d'attendre. C'est vraiment ça, ralentir.
Donc soi-même, ça c'était compliqué pour Sylvain Tesson, ça l'est moins pour vous, ralentir complètement, se fondre, et vous avez conscience que vous êtes observé, même quand vous êtes effectivement ralenti, fondu dans le paysage, vous avez cette conscience-là finalement qu'on est regardé, comme le découvre Sylvain Tesson au fil de cette aventure.
Ah oui, complètement. Et c'est pour ça que je trouve que un des secrets aussi, enfin ce qu'il faut tenter de faire quand on veut faire la photographie animalière ou filmer les animaux, c'est être le plus mimétique possible pour ne pas déranger. Je trouve que ça c'est bien aussi de pas de saisir des comportements naturels. Et là encore une fois, c'est vraiment que des animaux sauvages, mais dans leur comportement. Et c'est encore, je trouve que c'est un pari gagné quand on vient pas interagir, quand ils ne nous voient pas, quand ils vont pas changer leur direction, leur chemin en fonction de notre présence. Ça c'est important, d'être invisible.
Marie Amiguet, vous savez ce que c'est que d'être invisible, notre co-réalisatrice du film. Vous tenez à dire que vous l'avez réalisé avec Vincent Munier, ce qui est vrai, mais vous aussi, vous savez vous faire oublier finalement. Alors, des animaux et puis des humains, on a l'impression dans toutes ces scènes chuchotées entre tous les deux, on se dit mais où est la caméra, où est la prise de son qui est magnifique, même s'il y a du mixage évidemment derrière, mais magnifique, on se dit où vous êtes complètement invisible du coup. Vous avez eu ce sentiment-là de vous oublier ou je sais pas ce que c'est
Disons que moi, j'étais assez gênée de devoir les filmer, surtout Sylvain, parce que je connais mieux Vincent, mais Sylvain Tesson, pour qui j'ai une admiration assez grande. Et puis tout à
écrivain
coup,
voyageur.
Je me retrouvais à filmer la personne qui m'avait inspirée, enfin porté compagnie pendant tant d'affûts avant que je le rencontre. J'avais lu tous ses livres pendant mes temps d'affûts sur d'autres projets, notamment sur les loups. Et tout à coup, vous vous retrouvez en face de cette personne-là, et puis avec Vincent aussi.
Ils sont pas plus impressionnants que des loups, tout de même.
Non, au final, ils sont fort sympathiques et très 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 bienveillants. Et donc, c'est ce qui fait que j'ai pu aussi les filmer avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'humour parfois. Mais je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme tout à l'heure, on demandait à Warren comment il fait pour faire sa musique. Je ne sais pas. Il ne savait pas trop expliquer. C'est instinctif. Pour moi, c'est instinctif de ne pas gêner, de me faire la plus petite possible pour ne pas perturber mes protagonistes dans leur envie d'évoluer naturellement. Comme Vincent ne veut pas déranger les animaux, moi, j'essaye de laisser libre cours à ce qu'ils ont envie de faire, à leur spontanéité. Puis parfois, quand il y a un petit temps mort, je me dis « bon, je vais tenter une question ». Puis je pose une question et puis parfois, ça donne lieu à un long échange et puis parfois, ça tombe à plat.
Ne rien déranger, se faire le plus discret possible. Il y a évidemment constamment la musique de Warren Ellis qui rythme, qui dérange pas non plus du tout, qui est là, qui nous accompagne. Pourquoi aussi, on parle du loup, pourquoi avoir choisi des animaux sauvages dans ces espaces-là, au Tibet, en Himalaya, très froid, les conditions climatiques sont terribles. En même temps, c'est effectivement loin de tout, quoique vous allez croiser, évidemment, vous vivez avec les Tibétains sur place. Mais pourquoi avoir choisi ces montagnes-là,
ces grandes étendues?
Oui.
Je pense, avant, c'est vrai que j'avais fait une bonne, des expéditions en Arctique, un peu en Antarctique, en Scandinavie énormément, dans les pays de l'Est aussi. C'est cette recherche, à mon avis, du monde non apprivoisé. C'est-à-dire, j'aime, je me sens bien et je me sens apaisé. J'apaise un peu mes blessures. C'est comme un baume quand je suis dans des endroits.
Un baume glacé.
Exactement. Mais quand je suis dans des endroits où tout est là, tout est à sa place, où l'homme n'a pas vraiment encore tout bousillé, quoi, et donc c'est pour ça qu'il faut aller dans ces grandes espaces solitudes là, dans ces grandes solitudes qui sont les steppes du Tibet, les déserts arctiques, et puis aussi fasciné par ces animaux qui vivent là, qui sont hyper adaptés. Ça, c'est quand même incroyable. On est quand même à 5000 mètres, 5000-6000 mètres, et on a encore une faune qui ressemble à celle du Serengeti. On a des antilopes, des gazelles, on a ces yaks sauvages qui ressemblent à des buffles, qu'on pourrait comparer, qui sont assez méconnus finalement, parce qu'on connaît si bien la faune africaine et si peu cette faune du Tibet. Et donc c'est peut-être un peu pour ça, et tenter, c'est ce que j'ai essayé de faire avec mes photos, maintenant avec des films, tenter de mettre... le rendre un hommage le plus sincère possible, on est avec une exigence qui est très aiguë de les magnifier. Et pour ça, il faut essayer de trouver la belle lumière, le bon moment. J'aimais beaucoup les filmer dans les tempêtes. Là, on a une tempête, ça commence par une tempête de sable aussi, ça donne tout de suite. C'est quand même une certaine rudesse, et c'est juste pour avoir un grand respect, finalement. Un respect, et puis qu'on soit attentif, parce que nous, dès qu'on arrive dans ces espaces où tout est en ordre, on y amène vraiment rapidement le désordre.
Respect pour la beauté autour de la question pourquoi et comment pister la panthère sauvage. La panthère sauvage, oui, Vincent Munier et Marie Amiguet, vous n'êtes jamais seuls dans ce film. On l'a dit, vous êtes observés de partout. Ce n'est pas qu'avec les yeux qu'on peut approcher votre film, c'est, j'ai envie de dire, surtout avec le cœur et même avec les oreilles. Alors la preuve, on a parlé de la musique avec la chanson du film, composée par Warren Ellis, interprétée par Nick Cave, qu'on va écouter tout de suite. Là encore, autre rencontre entre vous tous. We are not alone. Nick Cave et Warren Ellis, c'est la chanson de votre film La Panthère des Neiges sur RFI.
This world has ears and rocks have eyes. Nature loves to hide. The world is a bush full of fiery eyes. Nature loves to hide. I've traveled a lot, I was observed. I was observed and unaware. I've traveled a lot, unaware. I was observed, I was observed. We are not alone.
Good news for
us. We are not alone.
Good news.
We are not alone.
Good news.
We are not alone.
Good news.
We don't see them. We don't see them.
Good news.
We don't see them.
Good news.
We don't see them.
Good news.
We are not alone.
Good news.
We are Not Alone, Nick Cave et Warren Ellis sur RFI et dans La Panthère des Neiges, votre film, Vincent Munier et Marie Amiguet, qui sort en salle demain et qui, dans lequel vous pistez les pisteurs de La Panthère des Neiges, sacrée rencontre aussi, tout est nickel, tout est pile poil dans ce film, jusqu'à la musique composée expressément par Warren Ellis et interprétée par Nick Cave, Vincent Munier.
Mais c'était totalement improbable, hein, une chance inouïe. C'est un grand cadeau et on termine par cette chanson incroyable, ce souffle de Nick Cave. Ce sont des paroles de Sylvain Tesson. Très rapidement, il avait griffonné des paroles, comme des petits poèmes, des haïkus que Warren Ellis a fait traduire. Ils ont mis ça en musique avec Nick Cave et c'est la musique de fin. Et je crois que ça résume en plus l'intention du film, quoi. On n'est pas tout seul. Jusqu'à maintenant, on a quand même énormément avancé. Un peu sans soucier, finalement, des autres, et dont les bêtes sauvages, qui sont indispensables, déjà rien que pour nous se nourrir de leur beauté, de les observer, et puis parce que quand on connaît un peu la biologie ou l'écologie, on est tous interdépendants et qu'on a besoin d'eux.
On n'est jamais seul, effectivement, et on peut même faire de sacrées rencontres sur les hauts plateaux de l'Himalaya.
Sylvain, Sylvain. Il y a un ours en haut, en ligne de crête.
Oh, génial.
Ah, ils sont pas loin de la crête. Ah, ils jouent. Aïe, 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 merde, oui, ça passe de l'autre côté.
Tu veux pas qu'on aille voir un peu?
C'est un peu délicat, on va essayer. Ouais, on va essayer. C'est délicat, on va y aller tout doucement.
C'est délicat parce qu'on risque
de tomber dessus tout de suite.
Tombe dessus, ouais.
C'est une mer avec deux oursons. Ça peut être dangereux. Sylvain, en silhouette. C'est magnifique.
Il faut venir vers nous, c'est sûr.
Je sais pas. Si c'est eux qui viennent vers nous, ce sera moins gênant.
C'est pas dangereux.
Non, non. Ils se frottent à la pierre. Regarde-moi ça, il va se mettre sur ses pattes arrière.
C'est qu'il est pas content.
Non, 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 ça lui fait du bien. Ils adorent ça. Ne bouge pas, Sylvain. Ne bouge pas. Ils nous ont vus, c'est certain.
L'ours, l'oursonne, vous avez vu, ça c'est certain. Bien avant que vous ne la voyez, quoique vous avez été rapide. Enfin, vous êtes incroyablement rapide, Vincent Munier, à sentir qu'il y a un ours.
Ben non, parce que là, j'ai fait au moins 7 voyages avant de voir l'ours. Et c'était un cadeau, c'était énorme. Là, c'était en septembre 2019, on est retourné avec Sylvain, on a eu cette rencontre mémorable. J'avais vu quelques traces à peine, mais déjà de trouver des ours dans ces endroits pareils, c'est quand même assez improbable. On est quand même c'est très aride, c'est très épique. Y a pas de, on est loin des ours d'Alaska avec des saumons. Et donc c'était un grand moment. Et comme je le dis souvent, là où il y a la présence de ces grands prédateurs, je trouve que c'est, on se sent tellement petit, vulnérable, proie, que ça fait du bien. Ça fait vraiment, je trouve, du bien à nous d'être notre espèce animale qui est toujours à maîtriser, à gérer, à décider du sort de telle ou telle bête en fonction de si elle nous est utile ou pas. Et ça, c'est là où il y a de l'ours, je me sens vraiment bien vivant. Sentir proie,
est-ce que c'est
important.
Ça que vous recherchez, justement, à être complètement vivant? Au fond, on a l'impression, évidemment, vous êtes photographe animalier, vous voulez les prendre en photo, mais on a l'impression que l'affût, la traque, la quête... C'est pas le but. Enfin, si, bien sûr que vous voulez les photographier, non, les voir, les rencontrer, mais on a l'impression que c'est tout le chemin qui y mène, qui est pratiquement aussi important.
C'est sûr, on entend souvent ça, mais c'est une réalité. Pourquoi la photo? Parce que mon père m'a donné cet outil très tôt et que ça m'a plu pour vraiment partager ces émotions fortes. Mais pour être tout à fait sincère, c'est quelque chose d'assez vital pour moi personnellement. Donc c'est presque un peu égoïste. J'ai ce besoin d'être dehors, d'observer les animaux. La photo, je pourrais vraiment m'en passer, mais j'ai vraiment ce besoin d'être à leur contact. Et l'image, maintenant plus le film, c'est juste pour partager ces moments, c'est certain. Et puis là, on a tenté d'aller... Il y a quand même un message un peu militant dans ce film. C'est pour essayer d'aller chercher au plus profond de nous-mêmes, de réveiller un petit peu, notre un peu sauvage, quoi. Essayer de montrer à quel point ça nous est utile d'être en contact avec eux, avec cette beauté parfaite qu'on a dans cette nature sauvage.
Vous n'avez jamais peur ?
Si, non, mais comme je vous le disais, la peur, c'est indispensable, je l'ai, c'est un sentiment utile, important, d'avoir peur, que ce soit par une tempête, que ce soit par, en effet, ces ours, c'était, le moment était délicat, il a fallu en effet qu'on parte, parce que l'ours qui était suité, donc, avec deux petits oursons, enfin, ils étaient un peu gros, nous avait calculé, elle savait que c'était deux hommes, et elle gardait toujours le cap dans notre direction. Donc là, c'était un peu, il a fallu qu'on parte. Mais c'est bon, ça. J'ai envie de dire, c'est important. C'est d'avoir ça.
Ça nous remet à notre place.
Ça nous remet à notre place. Et je suis pour vraiment la présence de ces grands prédateurs chez nous qui donnent une dimension à tout. Et c'est même philosophique, quoi. On a besoin de composer avec eux pour être meilleur, vraiment. Et ce qui se passe dans nos Pyrénées, ça m'affecte énormément. Un de mes derniers films, c'était Ours simplement sauvage, où on montrait que dans les Asturies, en Espagne, à 3-4 heures de chez nous, on vivait avec 400 ours sur une chaîne de montagne à peu près équivalente. Nous, on en a 40 et il se passe plein de problèmes. Donc il y a vraiment une mauvaise foi et une intolérance qui nous affecte au plus profond.
On peut vivre avec les autres, avec tous les autres vivants, autour de la question comment pister les bêtes sauvages et la panthère des neiges. Alors le plus important, vous l'avez dit, c'est de se faire oublier, d'être tranquille, calme, discret, posé, des heures, sans bouger, dans l'immensité glacée, à perte de vue, dans le silence, sauf que parfois il se passe ça.
Ah, je crois qu'on est repéré.
Allez, Gamba. Et nous, on attendait la panthère, hein. C'est pas toi qu'on voulait.
C'est dur, hein. Bon, ben ça, c'est ce qu'on appelle un affût discret.
Ok, ok, hé.
Vas-y. Ça, cherche la panthère. Et pendant ce temps, la panthère nous regarde. C'est lui qui a trouvé ?
Ouais, il a trouvé ma liste de musique. Incroyable, hein ?
Vincent Munier, Marie Amiga, heureusement, il y avait aussi, heureusement, oui, dans cette immensité sauvage et parmi les bêtes sauvages à l'affût, il y a aussi des enfants dans le refuge dans lequel vous viviez, des enfants tibétains qui sont venus semer une jolie pagaille.
Ouais, des enfants qui sont venus amener une espèce de joie de vivre fantastique. C'était les enfants qui vivaient dans la petite maison des nomades tibétains qui nous avaient accueillis. Et c'est pas facile d'être accueillis par les nomades parce qu'ils ont pas tellement le droit de le faire. Et à partir du moment, c'était nos 10 derniers jours de voyage, on s'est installés chez eux. Moi, j'ai trouvé que... Enfin, ça a été un grand souffle pour moi. Et puis, j'ai trouvé que Sylvain s'est vraiment ouvert... de manière très très tendre il a beaucoup joué avec eux, c'était vraiment drôle de le voir faire ça a apporté beaucoup de chaleur humaine à ce film on aurait pu se passer de tout ça, mais moi je trouvais que c'était important dans notre voyage de raconter aussi cette part-là, quoi. Parce qu'il y a la part des bêtes, il y a la part des hommes qui vivent au milieu des bêtes, et puis il y a la part de ce qu'on veut raconter aussi, de qui on est.
Et de notre humanité, c'est ça. Exactement. au milieu, dans cette immensité sauvage, et ces enfants qui sont chez eux.
Bien sûr, et là, il y a vraiment, c'est le mot harmonie que j'aimerais bien qu'on trouve chez nous, c'est énorme. L'harmonie, la tolérance entre. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une haine envers les animaux, comme la panthère qui a tué un de l'Oriac, et ça arrive souvent, le loup aussi, l'ours également. Et on ne ressent pas chez eux quelque chose de vindicatif, de haineux, voilà, qu'on peut avoir chez nous, en Occident. Et ça, c'est un peu triste. Et à l'inverse, même, ils sont plutôt. Ils disent que le loup est un allié parce qu'il permet de disperser, des fois, des grosses concentrations d'herbivores sauvages qui rentrent en compétition avec leur bétail. Donc c'est peut-être anecdotique, mais non. En fait, vraiment, les loups, il y a un équilibre. Et c'est ça, harmonie, équilibre, tolérance. Et puis une empreinte qui est très minime, ce sont des nomades. Et ils bougent en fonction. C'est vraiment agréable de passer du temps avec eux. Ils m'ont été toujours précieux pour tous ces repérages.
Hommage donc à ces nomades tibétains autour de la question « Comment avez-vous ?» vu, photographié et filmé l'insaisissable panthère des neiges. Écoutons voir, allez, ce qu'on attend tous, l'instant décisif, l'apparition.
Oh. Oh, je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai, Sylvain. Il y a quelque chose là-haut, en ligne de crête.
Elle a bougé ?
Elle va bouger.
Elle s'est levée.
Je vois où elle est. Tu vois le gros bloc, Sylvain ?
Le gros bloc.
Elle est à droite du gros bloc. Elle est vraiment en ligne de crête. Elle se détache dans le ciel. Sylvain, regarde.
Regarde-moi.
Tu vois le plus gros des rochers, le plus sombre.
Il y a un peu rougeâtre.
Un peu rougeâtre. C'est celui-ci, tu vas sur sa droite.
Ok.
Ligne de crête. Tu l'as ?
Magnifique.
Tu la vois bien ?
Ah oui, oh, génial.
J'ai jamais connu ça. Et franchement, c'est un moment super rare. Elle sait qu'on a dormi dans cette grotte, j'en suis sûr. Elle le sait, mais elle a dû prendre le temps toute la nuit. Et là, elle n'a pas l'air de rire. Elle n'a pas l'air de nous calculer, quoi. Il faut qu'elle tue à 100 mètres de cette grotte où on va dormir, mais c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau, mais inespéré. Ça aurait pu être partout, quoi. Purée, mais quelle chance.
Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là, Vincent Munier, face à cette panthère ?
Bah, vous avez vu, je me dévoile un peu. On est extrêmement ému, évidemment. Mmh. Extrêmement ému. Et c'était pas ma première panthère, mais là, le pari était gagné. Rien n'était sûr.
Joli coup, parce que vous auriez pu ne pas la voir.
Évidemment, la évidemment. Et là, j'avais vraiment cette envie de partage avec Léopold, avec Marie et Sylvain. Et c'était un moment de grâce, évidemment, c'était fabuleux. Donc il y a la petite larme qui finit par geler, qui coule.
C'est toujours... Et qui gèle hein, sur le poil de l'œil, ça c'est sûr.
Et puis plus c'est compliqué, et plus on est dans des milieux, et c'est ça. Mmh. Si, et quand le moment arrive, ben, on le savoure. Il a une dimension qui est beaucoup plus grande. Quoi.
Maria Miguet, au moment où... Et est-ce que vous l'avez... Enfin, oui, vous la voyiez, la panthère neige, parce qu'il fallait que vous continuiez à filmer Sylvain et Vincent.
Eh oui, à ce moment-là, moi, je ne la voyais pas. Je savais qu'elle était là parce que Vincent était en train de la montrer à Sylvain. Mais moi, il fallait absolument que je capte cet instant. On n'était même pas sûr qu'il existe, ce moment. Moi, j'étais persuadée qu'on ne verrait pas la panthère. Et tellement c'était trop beau, trop gros. Et finalement, ben voilà, j'étais concentrée sur... J'ai découvert la panthère à travers les yeux émerveillés de Sylvain, de Vincent. Et Sylvain qui nous a dit après ça, c'est le plus beau jour de ma vie depuis que je suis mort.
Depuis que je suis mort, parce que Sylvain Tesson a eu un terrible accident. Ouais. Le plus beau jour de sa vie depuis qu'il est mort.
Ouais, il nous avait dit ça. Très émouvant quand même.
Qu'est-ce que vous voulez susciter chez le spectateur de vos photos, de ce film? On l'a dit, on a parlé de la beauté, on a parlé de la force, de la splendeur de la vie sauvage sur Terre, de pas déranger. Qu'est-ce que vous aimeriez susciter chez le spectateur de ce film? J'encourage tout le monde à y aller, moi je vais retourner au cinéma, mais allez-y Marie.
Ben, on aimerait susciter de l'émotion, on aimerait réveiller en eux des petites zones cachées, enfouies, qui sont et qui nous touchent directement et qui sont de l'ordre de l'émotion pure, d'être en contact avec des êtres vivants, d'être émerveillé par la beauté, comme on peut être émerveillé d'un coucher de soleil, de réveiller en nous ce qui nous appartient et ce qui constitue notre liberté d'être humain. Et dans notre société, cette liberté d'être humain, elle disparaît sous des couches d'obligations, de codes, de choses qui ne sont pas naturelles, en fait. C'est pour ça que nous, quand on vient en ville, tous ces codes-là, on a du mal à passer au travers, parce que ce n'est pas naturel, en fait. Et c'est pour ça qu'on vit isolé un peu.
Vincent Meunier, avant de retourner, vous isoler.
Non, mais ça, c'est vraiment... C'est un peu un cadeau, parce que nous, on a conscience, de par notre histoire, de ce privilège d'être là-bas, d'être en contact avec ça. On en a conscience, donc c'est vraiment une parenthèse enchantée qu'on a envie d'offrir en quelque sorte. Et aux gens, on est quand même entouré de choses un peu sombres, de laideurs. On s'habitue à une certaine médiocrité, je trouve, de plus en plus dans notre monde. Et donc, c'est voilà, une parenthèse. Nous, on les a là-bas. Donc, c'est vraiment un partage. Et on a mis tout notre amour, notre cœur et avec ces multitalents pour essayer de restituer au maximum, en fait, ces émotions très
la
fortes.
La préciosité, j'ai envie de dire, du monde, de la vie, de nos émotions. Allez, on laisse le dernier mot, les derniers mots, à Sylvain Tesson.
Sur les pages de mes carnets, j'avais réuni les quelques principes que m'inspiraient ces journées passées à côtoyer la beauté. Vénérer ce qui se tient devant nous, ne rien espérer, jouir de ce qui s'offre, avoir foi en la poésie, se contenter du monde, lutter pour qu'il demeure.
Se contenter du monde au vrai sens du terme. Merci infiniment, je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Merci Maria Miguet.
Merci
Vincent Meunier.
Merci.
Et rien à ajouter, si ce n'est, si vous le pouvez, chers amis auditeurs, parce que beaucoup d'entre vous êtes loin d'ici, si vous le pouvez, voir ce film merveilleux, La Panthère des Neiges. Ah, on entend la voix de Nick Cave, qui est dans ce film, tout au long de ce film, sorti demain mercredi au cinéma dans toute la France. On peut aussi dévorer l'ouvrage La Panthère des Neiges, magnifique parution avec vos photos, Vincent Meunier chez Gallimard, et bien sûr le roman de Sylvain Tesson, paru en poche, La Panthère des Neiges. Et puis je rappelle aussi à nos amis auditeurs que le film La Panthère des Neiges sera disponible en audio description, donc même sans voir les images et les photos, on pourra à tout entendre, comme on l'a fait au cours de cette émission. Merci hein, à tous les deux. Merci Vincent Meunier, merci Marie Améguet pour tous ces moments et pour tout ce qui nous en reste au fond du cœur. We are not alone, mais autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast, disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, autour de questions tout aussi sidérantes, mais cette fois-ci sur le cosmos et nous, la vie, l'univers et le reste, avec un astrophysicien qui ose soulever toutes les immenses interrogations qui nous habitent, la tête dans les étoiles et les pieds sur Terre. Avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Merci de votre curiosité. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles, à l'écoute de RFI, mais aussi de soi-même et des autres. C'est bientôt l'heure de retrouver les informations.
Tout à à l'heure.